Puisque le monde va vite, beaucoup trop vite, puisque l'épopée humaine est si souvent inhumaine, voici une petite évasion sur les chemins de traverse des colères du monde qui nous alertent, parfois nous agacent, celles qui éreintent ou vont nous émouvoir. Le journal des colères du monde, c'est vous qui l'entendez, mais c'est lui qui vous écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ces colères du monde. Tristesse au Liban, les écoles, les banques, les bureaux gouvernementaux, les administrations dans le pays sont fermées en ce vendredi. Ceci après les heures terribles d'affrontements qu'il y a eu hier entre deux milices qui étaient armées sur Beyrouth et qui se sont affrontées. Bilan 7 morts, ce sont des milices du Hezbollah et du mouvement Hamas, les chiites contre les chrétiens, ce qui réveille les images d'autrefois de la guerre civile de 1975-1990. Cela fait des années que l'on n'avait pas vu cela, des hommes en armes ouvrant le feu les uns sur les autres au cœur même de la ville de Beyrouth. Alors que se posait la problématique de la poursuite de l'enquête sur la terrible explosion du 4 août qui a causé tant de victimes et qui a détruit une partie de la capitale libanaise. On sait que l'enquête est extrêmement difficile, il y a beaucoup de tensions, des accusations de part et d'autre, et il a fallu qu'il y ait interrogation sur la poursuite de l'enquête en cours pour que ces deux milices en viennent à ouvrir le feu. Les autorités libanaises ont appelé à une journée de deuil, et donc les chiites libanais et les chrétiens libanais vont enterrer aujourd'hui et dans les prochaines heures leurs morts, chacun dans leur quartier respectif. En Algérie, une bombe de confection artisanale a explosé. Cela s'est passé le mercredi de cette semaine, ceci à proximité d'une zone frontalière, plus précisément dans la commune de Ait Boussaïd, à l'ouest de la wilaya de Tlemcen. L'information a été relayée depuis par un communiqué du ministère de la Défense nationale. Un homme à garde-frontière aurait été tué à l'occasion de cette frappe qui visait une patrouille de garde-frontière. On ignore pour l'instant qui sont les auteurs de cette attaque tout à fait inédite le long d'une frontière algérienne. L'enquête a été longue, très longue en Libye, et on vient d'apprendre que plusieurs années après les faits, eh bien, l'un des auteurs, l'un des responsables de l'attaque de l'hôtel Corinthia en 2015, c'était en Libye, a été arrêté par les forces de sécurité libyennes, un membre tunisien présumé du groupe État islamique. Il se fait appeler Izzadine. C'est un homme qui était responsable de l'infiltration de membres du groupe État islamique, et c'est un homme donc qui aurait participé à cette attaque absolument terrible. C'était au mois de janvier, un hôtel qui accueillait à l'époque des forces anti-gouvernementales. Il y avait eu parmi les très très nombreuses victimes, bien évidemment des Libyens, mais aussi des étrangers, des Américains, des Français, des Kirghizes et autres blessés qui avaient été absolument traumatisés. C'était une époque où le groupe État islamique était encore influent sur la Libye. Heureusement, aujourd'hui, ce n'est plus le cas, même s'il reste encore quelques opérations de prévention et d'arrestation. Mais aujourd'hui, on ne peut pas dire que le groupe État islamique soit vraiment une force constituée en Libye, et on ne peut que s'en féliciter. Il est très en colère, l'ancien président provisoire Moncef Marzouki, qui avait présidé à la Tunisie au lendemain de la révolution. Il y a aujourd'hui beaucoup de colère puisqu'il s'est vu retirer son passeport diplomatique par la nouvelle équipe gouvernementale tunisienne présidée par Kaïs Saïed. Il y a eu hier cet appel qui a été fait par le président tunisien à sa nouvelle ministre de la Justice pour ouverture d'enquête judiciaire concernant des attentats, ce sont les mots qui ont été utilisés, des attentats contre la sûreté intérieure et extérieure de l'État. L'idée générale est que la justice tunisienne doit sévir à l'encontre des personnes qui, pour certaines, sont à l'étranger et qui, selon les autorités de Tunis, procèdent à des ingérences et également contreviennent aux intérêts de la nation tunisienne. Cela vise très clairement les propos que Moncef Marzouki avait tenus à l'occasion d'une interview accordée à un média français durant lequel il s'était inquiété de la tournure des événements politiques en Tunisie, et il avait également vivement souhaité le report du sommet de la francophonie qui était prévu du 21 au 22 novembre de cette année. Il faudra attendre la confirmation, mais tout porte à croire, au regard des dernières déclarations du Nigeria, que le chef du groupe État islamique en Afrique de l'Ouest, ISWAP, pour l'acronyme anglo-saxon, il s'appelle Abu Moussab al-Bardawi, il aurait été tué, il serait mort des suites de ses blessures. En tout cas, c'est ce qu'annonce le plus haut commandant militaire nigérian. Il reste mort, dit-il. Une formule que l'on peut entendre ainsi, puisqu'en fait, Bardawi a déjà été annoncé mort à plusieurs reprises dans le passé, puis il est réapparu. Or, c'est vrai que depuis le mois d'août, on n'a quasiment plus de nouvelles de lui. Il y a eu cette attaque qui avait mêlé des hommes de l'ISWAP. Alors, il a été dit qu'il avait été blessé, gravement blessé. D'aucuns avaient annoncé sa mort. Et puis, d'autres informations sont venues nous apporter des éléments de réponse, nous disant, mais en fait, il est gravement blessé, mais il arrive toujours à vivre ou survivre. Alors, que s'est-il passé? Qu'est-ce qui permet aujourd'hui au Nigeria d'affirmer que Bardawi a été tué? Il n'y a pas de précision apportée, mais en tout cas, tout porte à croire que cet individu serait décédé. Il faut rappeler qu'aujourd'hui, l'ISWAP est vraiment une force dominante au Nigeria. Elle a quasiment pris le pas sur Boko Haram et qu'aujourd'hui, on estime que ses méfaits depuis 2009, année de sa création, ont causé la mort de 40 000 personnes dans la sous-région, puisque l'ISWAP est une organisation transnationale qui intervient autant au Tchad qu'au Nigeria ou autre part, si bon lui semble, pour semer la terreur ou récupérer quelques subsides.
Ce proche Proche-Orient si loin de nous.
Notre escale du jour est une escale diplomatique avec cette déclaration du ministre saoudien des Affaires étrangères de l'Arabie Saoudite, donc qui estime qu'aujourd'hui les pourparlers avec l'Iran qui ont été engagés ces derniers mois sont qualifiés de sérieux. Et cela dit que les deux pays, donc à la fois l'Iran et l'Arabie Saoudite, ont décidé de reprendre le dialogue. On sait qu'il y a eu rupture des relations diplomatiques, c'était en janvier 2016, après qu'il y ait eu un saccage de l'ambassade d'Arabie Saoudite en Iran. C'était un saccage qui avait considérablement choqué les autorités de Riyad et qui donc avaient décidé d'interrompre leurs relations diplomatiques. Alors cette reprise de dialogue, il y a eu 4 sessions qui ont été notées depuis le mois d'avril dernier. Ce sont des pourparlers. Alors il s'agit bien de prise de parole pour l'instant. Il n'est pas question de relance des relations diplomatiques. Il a juste été évoqué par le ministre saoudien des Affaires étrangères. Peut-être qu'il pourrait y avoir une demande iranienne de réouverture de consulat à Jeddah. C'est là une hypothèse. Il faut encore être extrêmement prudent. Encore faut-il d'abord que la demande soit faite par l'Iran et encore que celle-ci soit acceptée par la diplomatie iranienne. On en est très loin. En fait, on sent beaucoup de prudence de la part du diplomate saoudien, mais en tout cas, il parle très ouvertement de ses pourparlers. Il dit d'ailleurs que ceux-ci sont cordiaux, donc ça veut dire que les deux parties s'expriment et disent ce qu'elles ont sur le cœur. Maintenant, il y a une immense prudence. Il est beaucoup trop tôt encore pour parler, par exemple, d'une réconciliation en tant que telle entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Mais tout cela est intéressant malgré tout parce que cela s'inscrit dans un contexte général où l'on a aujourd'hui ce monde arabo-musulman avec cette façade asiatique iranienne et toujours ce sentiment d'un univers quelque peu bicéphale. Et il y a visiblement la compréhension de part et d'autre que cela ne concourt pas aux relations telles qu'elles pourraient être imaginées et souhaitées entre l'ensemble de ces pays qui partagent à la fois la même religion, mais qui partagent aussi le même espace régional. Alors, même religion, c'est vrai qu'il y a des différences. On connaît bien l'antagonisme sunnite-chiite, mais les deux pays ont la volonté d'aller au-delà et de réouvrir un dialogue à la fois culturel, économique, politique, mais de faire en sorte qu'on arrive à sortir de cette situation actuelle qui n'est satisfaisante pour personne. En tout cas, c'est vraiment intéressant d'avoir eu ces propos de Riyad qui sont très clairs, en tout cas, qui sont formulés et qui disent aujourd'hui qu'il peut y avoir peut-être un espoir, avec toute la prudence qui s'impose, mais un espoir peut-être d'une normalisation à terme des relations entre l'Arabie Saoudite et l'Iran.
Voilà, c'était les colères du monde d'un jour comme les autres, mais qui n'était pas tout à fait comme les autres. On se retrouve bientôt pour d'autres colères du monde.